Vous savez certainement qu'il y a eu de très anciennes communautés chrétiennes en Inde. Alors, quand on va à Chennai, qui est le nom actuel de Madras, on vous montre le tombeau de Saint Thomas. Non pas Saint Thomas d'Aquin, mais Saint Thomas, le disciple de Jésus, bien sûr. Ça n'a rien d'historique. Bon. Mais en revanche, on sait, par des bouts de textes, entre autres du maître grec d'origine, qui s'appelait Fonteinos, qu'il y avait des chrétiens en Inde. Alors combien, on n'en sait rien, mais lui, il en avait rencontré. Donc, le maître spirituel d'Origène, ça nous met au tout début du IIe siècle. Et puis après, on a un moine qui voyage sur ordre de l'empereur byzantin dans le courant du VIe siècle, qui s'appelle Cosmas, et qui écrit un traité, enfin un récit de voyage plutôt, c'est pas un traité, verbeux, long comme tout, sur son périple, dans lequel il se fait valoir, il fait valoir ses aventures, etc., tout ça. Et on finit par comprendre que lui, il a rencontré des communautés chrétiennes en Inde du Sud. Donc on a divers témoignages. Est-ce qu'on peut parler de rencontres entre hindouisme et christianisme? Certainement non, si les mots ont un sens. Il est probable, d'après les études qu'on a pu faire, que ces premiers chrétiens, ces anciens chrétiens, ont été considérés comme un groupe de caste particulier qui avait des dévotions particulières envers un maître, un gourou, pour parler indien, qui s'appelait Jésus ou Christos. Voilà. Et selon la philosophie de cette organisation sociale très fractionnée, c'était un groupe particulier parmi d'autres groupes particuliers. Donc, du point de vue interne, ce christianisme est spécifique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu, c'est une évidence de le dire, mais je le souligne quand même, il n'a jamais connu toutes les évolutions du christianisme méditerranéen, ni les consuls, ni le canon tel qu'il est défini, etc. Donc, c'est un christianisme très différent que les chrétiens latins vont trouver quand ils vont arriver en Inde au XVIe siècle. Ces chrétiens latins, ils arrivent avec les cargaisons des bateaux, ou plutôt dans les cales, parce qu'elles sont vides, c'est au retour qu'elles vont être pleines, des bateaux, des conquistadors, de Vasco de Gama, qui arrive en 1498 dans ce que les Portugais vont appeler Goa, et ils viennent guidés par un projet politique et messianique très particulier, qui est le projet du roi de Portugal, Manuel de Portugal, qui est soutenu par le pape de l'époque, qui est le projet de prendre en tenaille l'Empire ottoman entre chrétiens d'Occident et puis chrétiens d'Orient, mais d'Orient, chrétiens asiatiques. Donc l'idée, c'est bien sûr de faire du commerce avec les Indes, mais aussi et surtout de découvrir des chrétiens dont on espérait qu'ils étaient nombreux et qui pourraient faire tenaille avec les chrétiens d'Occident. Je dis ça sur un plan d'histoire générale, c'est très important. Ça veut dire que le musulman est toujours, même on est bien après les croisades, le musulman reste l'ennemi de toujours. Et maintenant, c'est l'Empire ottoman. Bon. Donc, les chrétiens latins, ils arrivent en Inde. Ils ne sont pas très nombreux. C'est beaucoup des franciscains et des dominicains, quelques jésuites. Et ils rencontrent des chrétiens qui sont très différents d'eux. Très, très différents des chrétiens latins. Ils sont mariés. Ils sont répartis en castes. Ça veut dire que les cimetières sont divisés en carrés selon les castes. Ça veut dire toutes sortes de choses différentes. Ils n'ont pas la même, ils n'ont pas les mêmes livres de saints, les livres saints, pas les mêmes livres saints que les chrétiens latins. On va voir des autodafés. On va brûler leurs livres à Goa, sur les places de Goa. Bon, donc. Là non plus, on ne peut pas parler d'une rencontre des chrétiens latins, des chrétiens venus d'Europe, avec les hindous. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est une forme d'incompréhension qui va durer assez longtemps et qui va laisser des séquelles douloureuses entre deux formes de christianisme différentes. Et puis, il y a les conversions. Et les conversions ne favorisent pas le dialogue. Sauf que quelques jésuites vont innover, comme en Chine d'ailleurs. Matteo Ricci, vous savez certainement qu'il innove en Chine. Eh bien, on a un personnage qui est moins connu que Ricci, qui s'appelle Roberto de Nobili, un moine toscan qui s'installe dans le sud de l'Inde, dans une ville qui s'appelle Madurai, qui n'est pas très loin de Madras, et qui va créer un cercle, une sorte de cénacle d'érudits avec des hindous cultivés, des maîtres en théologie et en exégèse du Véda. Et ils vont discuter. Discuter de rites, puisque c'est la question de l'époque. Rappelez-vous la question de la querelle des rites, que c'est là-dessus finalement que Matteo Ricci veut une ouverture de l'Église, et c'est là que ça va achoper. Et c'est en grande partie là-dessus qu'un procès va être instruit contre les jésuites. Alors, Roberto de Nobili est du même avis que Matteo Ricci, c'est-à-dire qu'il se dit que laisser les hindous accomplir leurs rites familiaux, même par exemple les laisser brûler leurs morts selon des habitudes ancestrales et qui ont leur sens, leur cohérence, ça ne met pas en jeu la question de la foi, la question de la définition de la relation à Dieu, etc. Je vais un peu vite, il va être désavoué. Et dans la défense qu'il instruira, il enverra ce qui probablement a aggravé son cas, le témoignage de près d'une centaine d'experts théologiens exégètes hindous sur ces sujets. Donc, on sait par ce mémoire qu'il était, non seulement il avait rencontré, mais il était vraiment en dialogue avec eux. Donc, des rencontres exceptionnelles sur un fond qui est un fond soit d'indifférence, de non-connaissance réciproque, soit un fond de prosélytisme qui ne favorise pas le dialogue. Au XIXe siècle, et surtout à la fin du XIXe siècle, un nouveau contexte se présente. Qui est dû à des raisons à la fois géopolitiques et économiques. D'abord, les voyages sont beaucoup plus faciles, beaucoup moins dangereux, ce qui amène un échange, des échanges humains qui sont plus fréquents et en plus grand nombre. Donc, une sorte de coexistence entre des personnes d'origine différente et de religions différentes. Ensuite, cela est favorisé et augmenté, appuyé par la présence des Britanniques, qui sont des chrétiens anglicans et protestants, donc qui vont supplanter peu à peu le catholicisme latin qui avait été apporté par les Portugais. Donc il y a aussi, il faudrait envisager toutes ces différences à l'intérieur même du christianisme. Et on va voir fleurir dans la première moitié du XXe siècle, enfin fleurir c'est trop dire, mais on va voir apparaître quelques expériences tout à fait nouvelles de dialogue. Ces expériences, elles se situent d'abord sur le terrain non pas des théologies ou des métaphysiques qui sont très différentes, je pense que vous l'avez senti à propos de l'hindouisme, elles vont se situer d'abord sur le plan humain, sur le plan de l'expérience. Et ça va amener un certain nombre de moines hindous et chrétiens à tenter de vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que quel que soit le Dieu que l'on prie, et cette question n'est pas indifférente, je dis quel que soit, mais ce n'est pas pour m'en débarrasser. Cette question est loin d'être indifférente. Quel que soit le Dieu que l'on prie, il y a des modes de vie qui sont identiques. Il n'y a pas 36 façons d'être moine. Il n'y a pas 36 façons de vivre le renoncement au mariage, à une vie socio-économique intégrée. Il n'y a pas 36 façons de scander sa journée, c'est-à-dire de consacrer des moments à intervalles réguliers à se remémorer la présence de Dieu tout le temps dans la vie. Il n'y a pas 36 façons. Faut se réveiller la nuit à heure fixe et puis dans la journée, faut s'arrêter à heure fixe. Voilà. C'est bêtement dit, de manière triviale, c'est le rythme monastique. Et ça, qu'on soit à Calcutta, à Bombay, à Solheim ou à Dorchester, c'est pareil. Bon. Donc, il n'y a pas 36 façons de faire ascèse. Partout, on trouve le jeûne, qui soit complet ou qui soit une nourriture végétarienne ou qui soit... Après, bien sûr, il y a des différences. On mange du riz ici et puis du blé là. Bon, ça, OK. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effort pour conformer sa vie à un certain idéal qui, en ce qui concerne la vie monastique, passe par les mêmes exigences et aboutit au même résultat, c'est-à-dire une vie réglée sous le signe du divin. Bon. Donc, un certain nombre de moines, hindous, bouddhistes, chrétiens, commencent, peut-être il y en avait individuellement qui réfléchissaient à ça, mais ça commence à se voir dans la première moitié du XXe siècle, commencent à réfléchir sérieusement à ces ressemblances. Puis il y a Vatican II et des changements notables dans le rapport que l'institution Église va entretenir avec ceux qu'on appelle les non-chrétiens. Et là, le mouvement monastique va être particulièrement à l'écoute de ça, parce que ça lui fournit une justification à cette intuition d'une ressemblance très forte, malgré les différences de théologie, une ressemblance très forte dans l'expérience religieuse elle-même, religieuse ou spirituelle. Donc, à partir des années 1960, mais déjà avant, parce qu'on a des pionniers, on va avoir, bien sûr, des rencontres comme celle d'Assise, mais aussi, et ça c'est vraiment intéressant, des expériences qui durent dans le temps. Par exemple, je ne sais pas si vous savez que des moines bénédictins sont invités dans des monastères zen au Japon pour vivre pendant plusieurs mois de la vie, de la même vie que vivent les moines zen. On ne leur demande pas de prier le Bouddha, on leur demande de manger avec eux, de dormir au même rythme qu'eux, de cultiver le potager comme eux, c'est-à-dire de partager une vie qui est une vie monastique, qui peut être considérée, avec quelques différences minimes qui sont culturelles, comme universelle. En retour, des moines bénédictins invitent des moines japonais zen dans leur monastère. Ça, c'est des expériences qui n'auraient pas pu se faire au XIXe siècle. Elles peuvent se faire maintenant. Maintenant, il y a les pionniers. Ça a été préparé par des hommes qui ont vécu des choses difficiles parce que, à la fois, ils avaient une exigence spirituelle très profonde et en même temps, ils avaient une exigence de fidélité à leur christianisme et ils étaient... Enfin, dans l'Église, on les situait mal et on comprenait mal ce qui les motivait. Alors, pour ce qui concerne l'Inde, on a trois hommes qui ont eu une importance particulière. C'est un abbé, l'abbé Jules Montchanin, qui a fondé en Inde du Sud ce qu'on appelle un ashram, c'est-à-dire, ashram, ça veut dire simplement lieu de vie. Bon, un ashram, ce qu'il voulait créer, c'était un ashram hindou-chrétien. On est en 1939. Vous imaginez bien que dans l'Église, globalement, on ne voit pas trop ce que ça veut dire, en 1939, un ashram hindou-chrétien. Alors il s'explique dans une lettre et il dit « Ce que je souhaite, c'est vivre en chrétien le mystère hindou et que les hindous puissent vivre en hindou le mystère chrétien. » On ne comprend pas tellement plus ce que ça veut dire. Bref, il va lancer son expérience, qui va être une expérience très difficile, dans un lieu qui est un lieu merveilleux de dépouillement et d'humidité, parce que ça n'a jamais été un lieu où il y a eu beaucoup de monde, qui est au bord d'une rivière dans le sud de l'Inde. La rivière s'appelle Kaveri. Et son ashram, il va l'appeler, je ne vous donne pas le nom sanskrit, ce n'est pas la peine, l'ashram de la Trinité. Et là, il va vivre, au début avec deux, trois renonçants indiens. Ce n'est même pas des moines. Ce sont des renonçants itinérants qui sont séduits par l'idée d'approfondir le christianisme, d'entrer en contact avec un chrétien intense, je dirais, et de vivre avec lui une expérience concrète de vie monastique. Donc il va avoir deux ou trois renonçants indiens, hindous, pas plus. Il va avoir quelques visiteurs chrétiens, un ou deux moines, mais qui ne vont pas rester longtemps, un ou deux abbés. Bon, on ne peut pas dire que ça soit, sur le plan du nombre, une réussite. Après la guerre de 40, il est rejoint par un moine de l'abbaye de Kergonan, un jeune moine, dont Henri Le Sault. Je pense que vous avez tous entendu parler de Le Sault, et sinon ça s'écrit L-E, plus loin, S-A-U-X. donc dont le sceau, moine de l'abbaye de Kergonan, lit les Upanishads pendant ses premières années de vie monastique, et il a un choc. Et il se dit, il faudra que j'étudie ça plus avant. Il apprend un peu de sanskrit, il est autorisé à suivre les cours d'un indianiste à Paris, de temps en temps, ou je ne sais pas, des sessions. Finalement, après avoir insisté, réinsisté, réinsisté, il est autorisé à partir en Inde et il s'installe dans l'ashram du Père Manchana. On ne peut pas dire que ses supérieurs étaient tellement séduits par son projet, loin de là. Mais, bon, finalement, on accepte qu'il parte. Et dont le sceau va vivre dans ce lieu, il va aller rencontrer, j'y ai fait allusion tout à l'heure, Ramana Maharshi, ce sage indien qui prêche à la montagne d'Arunachala. Il a un choc le jour du Darshan, quand il entend, quand il voit d'abord Ramana Maharshi, et puis qu'il entend son enseignement, il le raconte dans un livre, il a un choc, mais vraiment profond. Et il ne rêve que d'une chose, c'est de revenir. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ramana Maharshi meurt avant que Don Le Sceau puisse retourner. Qu'est-ce que va faire Le Sceau? Il va demander l'autorisation à l'abbé Manchanin de quitter l'ashram pour aller vivre 6 mois dans une grotte de la montagne d'Arunachala. Donc il va vivre 6 mois, là, alors comme un ascète hindou. Et les hindous qui pérégrinent dans cette montagne, parce qu'il y a un chemin de pèlerinage, le prennent pour un ascète hindou. Donc, sur le plan des modes de vie, il y a une espèce d'identité là qui se fait. Et puis, au bout de 6 mois, qui sont 6 mois d'ascèse intense, il va rentrer au monastère de la Trinité. Ensuite, il va pas mal pérégriner dans l'Inde. Il sera un des conseillers pour le voyage du pape Paul VI à Bombay en 1964. Ensuite, il va se retirer dans le nord de l'Inde, dans une ville qui est connue des gens qui font du yoga ou de la méditation, parce que c'est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup d'ashrams, de gourous, etc., qui s'appelle Rishikesh. Et c'est là qu'il mourra, en 1973. Il a beaucoup écrit. Alors, Le Sceau, c'est à la fois un mystique. Il faut lire son journal qui s'appelle Les yeux ouverts. C'est un journal étonnant. C'est à la fois un mystique chrétien. En même temps, c'est un grand intellectuel. Il va creuser, c'est un théologien, il va creuser les différences de doctrine entre hindouisme et christianisme. Il ne fera jamais de syncrétisme. À de nombreuses reprises, il dit « J'aimerais bien penser que c'est la même chose finalement et que tout se rejoint. Mais je ne peux pas. Il y a des différences sur la Trinité, sur plein d'autres choses. Il y a des différences qui sont irréconciliables. Donc ça, je ne peux pas. En revanche, je peux, ce qu'il appelle le don de l'Inde ou la grâce de l'Inde, c'est d'avoir conservé des formes d'ascèse et de renoncement qui continuent d'exister en Occident, mais qui sont beaucoup plus valorisées en Inde. C'est-à-dire que le renonçant est un être qui est vraiment le messager de Dieu chez vous et qui est un être qui est très, très respecté. Et donc, ça permet à plus d'hommes de vivre cette expérience-là. Donc, il y a ce qu'il trouve en Inde, c'est des conditions favorables à la vie méditative, à l'intériorité, au silence. Quoique, je ris toujours parce qu'il n'y a pas plus bruyant que l'Inde. L'Inde est bruyante, klaxonnante, effervescente, mais c'est vrai qu'on rencontre des lieux de silence. Bon. Et donc, le silence, oui, ça a été toujours plus cultivé, probablement, une forme de lâcher prise aussi. L'homme d'Occident, il est très en prise avec ce qu'il veut réaliser, avec le progrès, avec tout ça, dont Le Sceau a compris que Il y a d'autres formes de relations au monde, à la nature, à soi-même, qui sont plus sous le signe du lâcher-prise et même d'un abandon mystique. Et que, bien sûr, ça existe en Occident et ça existe dans la grande tradition mystique chrétienne, mais ça a été plus préservé, mieux préservé en Inde. Donc pour lui, l'Inde, c'est l'école, il le dira, de l'intériorité, c'est l'école du silence, c'est l'école de la méditation. Encore une fois, je n'ai pas dit, lui non plus ne dit pas, que ça n'existait plus en christianisme occidental. Mais là, c'est un fait majeur. Donc, Jules Monchanin, Henri Le Sceau, et puis vient un troisième, qui est moins connu d'ailleurs dans les milieux chrétiens, à ma surprise, parce que c'est vraiment celui qui a réussi, si on doit parler de réussite en ce domaine, c'est le père Francis Mahieux, M-A-H-I-E-U. Le père Francis Mahieux, qui était à la trappe de Scourmont, en Belgique. Et déjà avant la guerre de 40, on parlait à Scourmont de faire une fondation en Inde. Alors, il n'était pas du tout question de vivre entre moines hindous et puis moines chrétiens. Il s'agissait de faire, une fondation, je ne sais pas dire une succursale en Inde, de l'abbaye de Scourmont. Bon. Donc, ce jeune moine, Francis Mahieux, était enthousiaste pour y aller, dans une perspective missionnaire classique, on va dire. Et puis, vient la guerre, l'abbaye a été bombardée, si je me souviens bien, oui, c'est ça, en tout cas très, très abîmée. Et donc, le projet est complètement abandonné après la guerre. Il s'agit plutôt de restaurer l'abbaye, d'en reconstruire les parties, enfin, bon, bref. Mais Mahieux, lui, il n'a pas oublié. Et il fait le siège de ses supérieurs pour créer quelque chose. Alors finalement, de guerre lasse, on lui dit, partez en Inde, mais il part en fait sans aucun projet précis et sans mission. Enfin, il n'a pas d'ordre de mission, si je puis dire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'ashram de la Trinité, parce que c'est le lieu de passage créé par le père Monchanin où on peut commencer à vivre, à faire l'apprentissage de l'Inde. C'est pas rien l'apprentissage de l'Inde. L'apprentissage de l'hindouisme et en même temps se poser pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, parce que ces pionniers, ils savent pas du tout où ils vont en fait. Bon, alors à la suite de toute une série d'événements, et puis au bout d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, et puis de rencontres, et puis aussi les changements de vision dans l'Église à Rome, tout ça fait que un beau jour, Francis Mahieux peut créer quelque chose qu'il va appeler un ashram, qui en fait est un véritable monastère. Quand on y va, on est face à un véritable monastère, qui est, alors que l'ashram de la Trinité, le petit ashram de la Trinité, il est pas très loin de la côte sud-est. Le monastère que va créer le père Mahieux est dans les montagnes qui longent la côte sud-ouest, ce qu'on appelle les Ghâts, c'est-à-dire il y a une côte qui est très fertile, et derrière cette côte, il y a des montagnes qui sont beaucoup plus élevés que je ne croyais. Quand je suis allée, c'est vraiment... parce que dans ces montagnes, il y a les plantations de thé. Alors, on s'imagine que les plantations de thé, c'est dans des montagnes très douces, etc. Pas du tout. C'est des grosses chaînes de montagnes. Et il y a un sommet qui s'appelle Kurisumala. Vous écrivez ça comme ça se prononce, Kurisumala, qui veut dire littéralement dans la langue du pays la montagne de la croix, au sommet de laquelle effectivement il y a une croix qui n'est pas ancienne, mais il semble qu'il y ait eu un pèlerinage à une vierge miraculeuse, à une source, je suis jamais arrivée à savoir. Enfin, quelque chose qui s'est passé, ou, bon, voilà, un pèlerinage chrétien. Alors, c'est pas si étonnant que ça, parce que s'il y a des chrétiens en Inde, ils sont surtout présents en Inde du Sud et dans ces régions. Bon. Donc, le père Mailleux va s'installer là, dans une ancienne ferme qui est juste en dessous de la croix, donc presque au sommet de cette montagne. Et croyez-moi, pour y arriver, c'est de son temps, ça devait être difficile, difficile. Et là, il va créer deux choses. Il va créer un monastère et il va créer une laiterie modèle. Parce que ces moines, ils vont élever des vaches, ils vont avoir un très grand troupeau et le vecteur de rencontre avec les hindous du coin, ça va être les vaches. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des épidémies très importantes qui décimait le bétail régulièrement, partout en Inde, mais dans cette région en particulier. Et eux, les moines, ils ont des techniques d'hygiène qui leur viennent de Belgique. Et donc, ils vont les appliquer. Le père Mailleux est très sévère à ce sujet. Avec ces moines, ils doivent appliquer une hygiène parfaite. Et encore aujourd'hui, vous avez les petits camions de lait avec marqué dessus Kurisumala, qui sillonne la région pour apporter le meilleur lait du coin. Donc, c'est une anecdote, mais c'est pour dire que les rencontres et le dialogue, ils se créent parfois par des chemins qui sont tout à fait imprévus et qui ne sont pas forcément théologiques. Donc là, c'est les vaches. Les paysans et éleveurs du coin s'aperçoivent que il y a un troupeau modèle qui est là, et les moines vont créer une sorte d'école d'élevage, que j'ai vue, donc ce n'est pas dans l'abstrait. Et du coup, ils vont avoir des paysans hindous, des familles, les femmes sont sensibles à leur travail, qui vont apprécier leur travail, et appréciant leur travail, qui vont se mettre à discuter avec eux. Et de là va naître, pas seulement de ça, mais de ce contexte concret, familier, vont naître des rencontres. Puis il y a l'autre côté, alors l'autre côté qui est le côté monastique, c'est-à-dire que Francis Mailleux va accueillir des moines, ou plutôt, il va accueillir quelques ascètes hindous, mais qui ne vont pas rester. Là, c'est toujours un peu la difficulté, c'est que, au fond, les hindous, ça ne les intéresse pas tant que ça, de vivre avec des moines chrétiens. C'est plutôt les moines chrétiens qui seraient en demande de ça. Donc, il va accueillir quelques ascètes hindous, il va accueillir des moines qui sont déjà formés à la vie monastique. Un Américain, Bette Griffith, d'autres encore, en très petit nombre. Et petit à petit, ce qui va faire de Kurisumala une véritable abbaye, ce sont les novices, des hommes qui vont arriver en souhaitant devenir moines. Et aujourd'hui, l'abbaye de Kurisumala, qui a dépendu pour des raisons administratives dont j'ignore les arcanes, d'une abbaye cistercienne australienne, a été érigée en abbaye indépendante. Avant la mort du père Mailleux, donc il y a à peu près 25 ans, quelque chose comme ça. Moi, quand j'y suis allée, donc c'était quand j'y ai fait un séjour, c'était il y a une dizaine d'années à peu près, il y avait une quarantaine de moines, donc c'est pas rien, une quarantaine de moines qui sont des Indiens, pour la plupart de familles chrétiennes, quelques convertis au christianisme, mais pour la plupart de famille chrétienne indienne, des Indiens qui ont été appelés à la vocation monastique. Il n'y avait pas d'Européens résidant vraiment. Il y avait là deux moines, un Britannique et puis un Hollandais qui étaient là en séjour. Mais sinon, il n'y avait pas d'Européens. Le supérieur du monastère est un Indien. Venait de s'installer une communauté de moniales à côté. Voilà. Donc, c'est une fondation chrétienne en terre indienne et qui est maintenant animée, enfin plus qu'animée, enfin qui regroupe une communauté de chrétiens, mais qui sont tous indiens. Alors, Kurisumala est le siège de très nombreuses rencontres interreligieuses qui concernent l'Asie. Il y a des colloques, c'est un lieu, je pense qu'il y en a d'autres en Asie, mais moi je connais vraiment que celui-là. C'est un lieu extrêmement ouvert. Ainsi, il y en est leur bibliothèque. Alors, il ne faut pas s'imaginer la bibliothèque de Saint-Gall, hein, ce n'est pas ça. C'est des bâtiments qui sont assez bas, en partie en terre séchée, et puis il y a tous les livres qui sont bien rangés. Alors, c'est une bibliothèque qui est tout ce qu'il y a de plus scientifique. Hein. Mais alors, quand on regarde un peu, on voit du syriaque, du persan, du sanskrit, bien sûr, de l'arabe, du tamoul, du malayalam, qui est la deuxième grande langue de l'Inde du Sud avec le tamoul, des langues modernes, du grec, du latin. Et on se dit, tiens, c'est un haut lieu de culture. Haut lieu de culture. Les pères grecs voisinent avec les écrits des moines zen, etc. Quelque chose d'une rencontre des cultures. Ils ne sont pas du tout syncrétiques, hein, mais alors pas du tout. Absolument pas. Ils sont enracinés dans le christianisme, bien. Mais il y a une ouverture, j'ai envie de dire, un peu à tous les vents de la spiritualité. Je ne sais pas quel est le degré de rayonnement et d'influence d'un lieu comme celui-là. Parfois, on me pose la question, je dis, je n'en sais rien. Je sais qu'ils ont pas mal de visiteurs. Pas mal, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, les gens ne viennent pas en foule non plus. Donc, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas apprécier. Je sais que ce genre d'expérience nourrit alors quelque chose qui a été institutionnalisé à Rome, qui est le DIM. Vous avez entendu parler du DIM, dialogue intermonastique, et qui produit des textes. Vous n'avez qu'à taper sur Internet DIM ou dialogue intermonastique et vous tomberez sur leur site, qui produit des textes sur la rencontre, le dialogue, et qui émane, comme son nom l'indique, de moines de différentes abbayes d'Europe et d'Asie, et qui sont tout à fait dans la mouvance de Don Le Sau, d'un autre dont je n'ai pas parlé parce qu'il n'a pas été en Inde, mais il a été à l'instigation d'une grande rencontre à Bangkok en 1967, je crois que c'était Bangkok, qui s'appelle Thomas Merton. Oui, donc tout ça, ce sont des pionniers du dialogue intermonastique. Alors, si vous allez sur le site du DIM, vous verrez, il y a plusieurs textes qu'ils ont produits. Entre autres, il y a un texte sur la méditation qui est particulièrement intéressant parce que maintenant, vous savez bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait de la méditation en tout genre, toutes sortes de méditations. C'est très bien, mais il faut parfois un peu savoir ce qu'on fait quand on médite. Voilà, et ils ont produit un magnifique texte sur la méditation. Donc, vous pouvez aller voir un peu tout ça. Là, je vais m'arrêter parce qu'il est l'heure. Mais moi, j'ai le sentiment de vous avoir donné seulement une petite, un petit avant-goût de toutes ces questions. Mais bon, voilà, si vous êtes intéressé, je vous fais confiance pour continuer. Sur la rencontre christianisme-hindouisme, on aurait pu dire d'autres choses. Il m'a semblé que c'était quand même les choses les plus importantes, là, qu'il y avait à dire. Des choses un peu... C'est aventureux, c'est pionnier, mais je pense que peut-être ça peut avoir... c'est peut-être ça qui va avoir le plus d'avenir. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez été intéressés malgré la densité du propos. Voilà, et puis je vous souhaite bonne réflexion.
Merci beaucoup, madame, de cette journée absolument passionnante. Juste une petite question matérielle. Les personnes qui sont au CIF nous connaissent. Il faut redescendre les tables en bas. Il faut plier les chaises sur les petits chariots ici. Et il faut descendre toutes les tables sauf 10. 10 tables doivent rester ici. Donc les 3 premières rangées de